Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Here comes a stand! Here comes a stand, says Red Cashin.
On est de retour à la zone payante. Jean-Nicolas Gagnon en compagnie de Stéphane Cadorette et de Jean Carrier. On parle du repêchage de 2021 pour la NFL, le draft pour nos amis français. Bon, écoutez les gars, cette année, c'est un peu à chaque année, mais cette année, on dirait que c'est encore pire. Là. Ça me rappelle l'année de Sam Darnold, Josh Rosen, etc. On dirait que l'écart arrière occupe presque 90% des discussions pour le repêchage de cette année. On va commencer, nous aussi, à parler en parlant des carrières pour le premier essai de ce match. Jean, parle-moi des carrières en lice. On connaît beaucoup Trevor Lawrence pour ceux qui suivent le repêchage depuis quelques semaines. Parle-nous-en, mais aussi, je veux vous entendre, les gars, comment ça va se dessiner? C'est fou. Est-ce qu'il va y avoir 5 carrières de prix dans les 5 premiers choix?
Pas dans les 5 premiers, ça j'en suis convaincu, mais ils vont partir assez rapidement. Puis ça va avec, je dirais, cette fameuse façon de voir la NFL où ce que les carrières, je pense, prennent de plus en plus d'importance avec un jeu axé sur la passe. Puis tu vois que si tu n'as pas un bon carrière, tu peux faire les séries, mais tes chances de gagner le Super Bowl sont très très minces, on va le dire comme ça. Je peux te donner mon top 5, pas nécessairement ce qui va sortir lors du repêchage, mais moi je vais te les classer en ordre selon moi. Mon premier, c'est Trevor Lawrence, évidemment, un talent générationnel, un joueur qui a joué à Clemson. Je pense qu'il y a 3 défaites, je pense, dans sa carrière.
Deux défaites, 34 victoires, c'est quand même assez impressionnant.
Écoute, il y a trois fois il a fait les séries là, où il y a seulement 4 équipes là, qui font les séries dans le college football. Les 3 années, il est 3-3. Il y a un championnat national là-dedans, sa première année, où ce qui avait dépassé Alabama. Les gens ont tendance à peut-être oublier, mais c'est quand même là. C'est un gars qui était prêt pour la NFL, selon moi, il y a 2 ans. Là, il y a 2 années de plus dans le college football. Il a très, très peu de défauts. Il est mobile. Son bras est exceptionnel. Selon moi, la seule chose, des fois, c'est sa prise de décision. Des fois, il a tendance à forcer des ballons dans des fenêtres très, très étroites. Puis, il peut arriver là, des fois des mauvaises choses avec ça. Mais en général, c'est un gars qui a aussi une très bonne intelligence sur le terrain. Il va à travers ses lectures. Honnêtement, je vois pas comment
pour lui trouver un défaut, dernièrement, suite à une entrevue qu'il a donnée, on a l'impression que son désir de gagner serait pas aussi important que la moyenne d'un joueur, mettons, à sa position. Est-ce que
j'ai pas porté trop attention à ce qu'il a dit, honnêtement. Tu sais, je trouve que les gars sont tellement scrutés à la loupe, tu sais, au microscope fois 100 000. Je trouvais pas que c'était une déclaration incendiaire, loin de là. T'sais, il a juste dit qu'il voulait pas nécessairement gagner à tout prix. T'sais, qu'est-ce que ça inclut là-dedans? Il l'a dit par la suite. Il dit « Je travaille très, très fort. » Son éthique de travail a jamais été remise en question à Clemson. Moi, je porte pas attention à ça.
En fait, ce qu'il dit beaucoup dans cette entrevue-là avec Sports Illustrated, si je me trompe pas, c'est que le football le définit, mais il n'y a pas que le football qui va le définir dans sa vie. Tu sais, c'est ça qui devait ressortir, à mon avis, de cet entretien-là, mais on a plus axé sur est-ce qu'il veut tout faire pour gagner. Mais on est dans la saison du repêchage. C'est à chaque année, c'est des choses comme ça. Il y a des petits poux qui commencent à sortir. C'est trop long. C'est trop long. La saison finit là, au mois de février, puis pendant 2 mois et demi, on suranalyse ces jeunes-là. Puis à un moment donné, ça finit que chacun de ces jeunes-là a des poux, puis des squelettes dans le placard, puis toutes sortes de patentes. Trevor Lawrence, là, il reste qu'écoute, je remettrais pas en doute, moi, son désir de vaincre, personnellement.
Non, même chose pour moi. Puis je pense honnêtement qu'il va être un carrière à la hauteur de son rang.
OK, allons-y avec les autres, si vous voulez bien.
Moi, j'ai Justin Fields comme numéro 2.
Ah oui, encore?
Même chose ici.
OK, moi, je ne comprends pas pourquoi Justin Fields a glissé. Tu regardes tout ce qu'il a fait à Ohio State comme carrière, il a été très solide tout le long de la carrière. Puis moi, au contraire, dans les séries éliminatoires, j'ai encore plus aimé ce que j'ai vu. Écoute, il a joué blessé en finale et même pas mal tout le long de la demi-finale parce qu'il a mangé une solide shot d'un côte en demi-finale cette année contre Clemson. C'est sûr qu'il devait avoir des côtes fêlées, peut-être même cassées. Il est resté sur le terrain, s'est jamais posé de questions. Moi, j'en ai appris beaucoup sur Justin Field à ce moment-là, au-delà de ses qualités de carrière. Puis comme carrière, il y en a des fois qui remettent sa précision en cause. Mais quand tu regardes ses statistiques, les statistiques avancées, Justin Field est très, très, très précis. Puis c'est le carrière qui a pris le plus de shots dans les zones profondes de tous les autres carrières. Moi, j'ai que du respect pour Justin Field. Puis je suis convaincu qu'il va être un solide carrière dans la NFL.
Le fait, Stéphane, qui a l'épilepsie, est-ce que tu penses que ça peut faire peur à certaines équipes qui font en sorte qu'il descend dans le repêchage?
Je penserais pas, tu sais, c'est une condition là qui vient de dévoiler là, mais écoute, il a fonctionné avec ça là, c'est pas comme si ça vient d'arriver. Il fonctionnait avec ça, ça lui a pas nui sur la scène universitaire. Je pense pas que c'est un facteur important à considérer. Puis avec la médecine aujourd'hui, j'ai bien l'impression que Justin Fields va être en mesure d'avoir la carrière professionnelle dont il est capable. Puis comme Jean le disait, moi j'adore le point de Jean. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais il est pas précis, il se fie à sa première lecture. C'est le gars qui hésite jamais à attaquer sur un terrain. Au point où dans la NFL, s'il y a une chose selon moi qu'il doit apprendre, c'est soit capable d'accepter que 4 verges sur un premier jeu, c'est correct. C'est pas un drame. Là. T'es pas obligé de prendre une shot à chaque passe.
Exact.
Mais j'aime mieux un corps arrière que je dois retenir qu'un corps arrière que je dois lui rappeler constamment. Écoute, et pas peur, là, vas-y, là, lance la balle. Pour moi, Justin Fields, c'est clairement le deuxième. C'est drôle de voir comment il a glissé. L'année passée, là, écoute, avant la saison NCAA, c'était clair. On parlait même de Lawrence ou Fields dans certains cas, mais sinon, il était clairement deuxième. Là, je le vois dans certains classements, 4e, 5e corps arrière des fois. Je sais pas exactement ce qui s'est passé dans les derniers mois pour qu'on s'attaque un peu là.
Il a tenu un deuxième pro day. Ça, des fois, ça veut pas dire qu'il a déçu dans certaines, qu'il voulait se reprendre. Peut-être que
le premier pro day qu'il a fait, c'était tout simplement phénoménal. C'était hallucinant de le voir. Puis, je suis pas un gars de pro day puis de combine nécessairement. Je pense que ce qui parle le plus, c'est le jeu en situation de match.
Exact.
Les équipes en ont vu assez. Là, ils n'ont pas besoin nécessairement d'un pro day pour se décider entre Justin Fields ou Mac Jones ou Trey Lance. Mais écoute, le show qu'il a donné, c'était juste pour dire qu'est-ce que tu peux démontrer de plus. Ses passes en mouvement sont tout simplement phénoménales.
Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il souffre peut-être là, de la célèbre phrase « NFL ready » là? C'est ce qu'on dit. Ça, je sais pas, je vais pas aller sur votre numéro 3 tout de suite, mais est-ce que, quand on le compare à Zach Wilson, que tout le monde dit « prêt pour la NFL », est-ce que c'est ça un peu là, qui amenuise ses chances d'être sélectionné deuxième?
Point rapide là-dessus. Moi, au contraire, si tu me demandes qui est le plus prêt entre Wilson et Fields, écoute, on peut se tromper, les gars. On peut réécouter ça dans 2 mois et avoir l'air complètement farfelu. On ne le sait pas.
Dans 2 mois, peut-être pas, mais...
Fields, pour moi, a affronté de la grosse, grosse compétition dans le Big Ten. Il a joué de gros matchs de série. Il a été performant dans ces circonstances-là, alors que Zach Wilson, tu sais, c'est super, là, mais à BYU, la compétition est pas mal médiocre. On l'a pas vu nécessairement là, dans ces grands matchs-là. Je sais pas comment il va répondre au prochain niveau. Tu sais, il est capable d'improviser, tu sais, les fameux jeux off-script qu'on appelle, où il sort là finalement de la pochette, il improvise, il étire le jeu. Il a été vraiment fantastique à ce niveau-là, Zach Wilson. Mais c'est une chose de le faire contre l'opposition qu'il y a eu.
C'est ça.
Puis de le faire dans la NFL. Justin Fields a vécu ce niveau de compétition-là très élevé. Okay, pour moi, c'est un gros avantage.
Vous entendez les deux sur Lawrence et Fields en troisième. Est-ce que...
Ouais, moi, je pense que c'est peut-être là qu'on va changer. Moi, j'ai Trey Lance comme numéro 3.
Ouais, j'ai hésité beaucoup, moi, entre Lance puis Wilson. J'ai quand même un coup de cœur pour Lance, mais c'est l'incertitude parce que Lance, c'est beaucoup de la projection. C'est pas nécessairement de la production, là, parce que la production, encore là, c'est, on parle d'un très petit programme dans une équipe qui est très axée sur le jeu au sol. Mais le potentiel est tellement intriguant, tellement alléchant. C'est un athlète extraordinaire, un bras carrément canon. Donc, c'est tentant.
OK, mais Jean, parle-nous-en un peu de Trey Lance.
Ben honnêtement, c'est sûr que si quelqu'un me dit j'ai vu tous les matchs de Trey Lance depuis qu'il est là.
Ouais, là, ouais.
Je dirais ben écoute, peut-être que t'écoutes un peu trop de football. Parce que c'est évidemment une conférence qui est pas très, très forte. C'est une petite université, mais donc Dakota, mais ce qu'il faut aimer, comme Steph a mentionné, c'est son potentiel. J'ai beaucoup lu sur lui aussi, c'est une éthique de travail irréprochable. C'est un gars qui est le premier à rentrer pour faire du tape, c'est le dernier sorti, comme un carrière devrait agir. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il jouait dans une attaque de style pro-offense. Donc, une attaque qui ressemble beaucoup aux attaques de la NFL. Ça, moi, ça me parle également. Donc, il va être au niveau stratégique, selon moi, il va être en avance peut-être sur quelques-uns qui jouaient dans du spread offense. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis il est très, très athlétique. Oui. Ça, c'est un carrière qui est capable d'évoluer dans la pochette, mais si besoin fait sentir, il est capable de courir également. Donc, moi, c'est un peu la carte cachée, moi, je pense, du repêchage. Puis,
est-ce que tu penses que les équipes de la NFL voient la même chose que toi aussitôt? Parce que troisième, là, on parle des 49ers.
Ouais, exact. Puis moi, je pense qu'il serait un bon fit dans ce système-là. On parle là,
les
Niners parlent beaucoup de Mac Jones.
Ouais, ouais.
Mais Trey Lance pourrait également, je pense, être un excellent.
Mais on va faire nos prédictions tantôt, mais ça veut pas nécessairement dire que dans ta tête, les 49ers le prendraient, mais pour toi, c'est le troisième meilleur quart du groupe. Ouais. Parlons de Zach Wilson maintenant, Steph.
Ben, Zach Wilson, comme je disais, ce qui a vraiment impressionné dans son cas, c'est qu'il est sorti de nulle part. C'est impressionnant, mais en même temps, moi, je me méfie toujours de ça. Parce que l'année passée, quand la saison a terminé et qu'il retournait à BYU, il était même pas assuré d'être le carrière partant. Donc, forcément, on parlait même pas de lui comme d'un choix de première ronde, loin de là. Cette année, ben écoute, il brise tout, il amène BYU, là, il en fait une équipe très compétitive. Mais je reviens au niveau de compétition, c'est toujours un doute. Puis quand un corps arrière sort de nulle part comme ça, faut juste se méfier. Ça veut pas dire qu'il sera pas bon dans la NFL. On fait un classement là, de 5 corps arrière. Ça veut pas dire que le 4e puis le 5e, c'est des gars qui ont aucune chance. Au contraire, tous Évidemment. Ces gars-là, faut se rappeler, là, ils vont être repêchés sûr
puis
en première
ronde. Le
round.
Point qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a aucune chance non plus que les 5 ou 6 premiers carrières soient tous des partants dans la NFL.
Non.
Ça n'arrivera pas, là. C'est jamais arrivé. Écoute, je serais très surpris que cette QV-là soit l'exception. Là.
La tendance, si vraiment là, on est chanceux avec ces 5-là, il y en a 2 qui vont être très bons. Là. 2. Je pense pas là, qu'on peut aller à 3 puis 4. Selon les probabilités, puis selon l'historique chez les corps arrière choisis en première ronde, à chaque année, on se monte de beaux grands bateaux. Mais finalement, on est souvent déçu. Il y en a 2 qui risquent d'être probablement très bons, 2 déceptions, puis un flop total là, probablement là-dedans. Là.
En quatrième,
c'est la loi là, là-dedans là, des chiffres. Là. Si vous regardez d'année en année en année, là, ça peut pas faire autrement.
En donc, quatrième,
si je comprends,
voyez...
Stéphane, ton classement, toi, t'as Zach Wilson numéro 3.
Ouais, j'ai quand même Zach Wilson en 3 parce que je suis franchement attiré par sa capacité à improviser. Je trouve ça fort un peu quand les gens le comparent de facto à Patrick Mahomes, là, parce qu'il improvise, parce qu'il sort de la pochette, puis il y a souvent des passes en faisant des motions à angle très variés, très particuliers là aussi. Donc,
il y a un bras très, très fluide, puis je pense que c'est peut-être le meilleur passeur peut-être de tout le lot. Par contre, écoute, moi je l'ai même pas 3, je l'ai même pas 4, je l'ai 5, Zach Wilson.
Okay.
Pourquoi? Parce que je trouve que c'est peut-être lui qui a le plus haut potentiel de risque dans les choix. Ça se peut que ça soit un joueur extraordinaire, donc mais tu prends une chance selon moi en le prenant, ou il peut devenir un peu un boss. Je peux le comparer à Josh Rosen un peu. Josh Rosen, d'un point de vue carrière, il était capable de faire tous ces lancers-là. Il a joué lui aussi dans le Pac-12, qui n'est pas nécessairement la plus grosse conférence présentement aux États-Unis. Mais Zach Wilson, il a joué dans une conférence encore plus faible que ça. Il a un bras extraordinaire, mais selon moi, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il vaut vraiment. Par contre, je pense aussi qu'il pourrait être la surprise, puis il pourrait être le Justin Herbert du draft.
Ouais.
C'est possible aussi. Mais moi, c'est le plus gros risque, selon moi, des carrières. Si tu prends Fields ou Lawrence, selon moi, t'es pas mal certain de ce que t'as. Zach Wilson, selon moi, c'est un point d'interrogation.
Okay, mais à partir des trois derniers, tu commences à guesser un peu plus.
Vous avez quatre des cinq premiers que c'est vous avez les mêmes. Là, il vous en reste un. Est-ce que vous avez tous les deux Mac Jones dans les cinq meilleures carrières?
Ça, moi, j'ai Mac Jones 4 puis Wilson 5. Donc, je suis un peu différent de Stéphane. Moi, j'aime beaucoup Mac Jones. Je pense, par contre, qu'il peut pas jouer avec n'importe quelle équipe dans la NFL. Ça va y prendre un système qui est un peu adapté à ce qu'il fait. C'est un gars qui est pas ultra athlétique, mais il est pas mal plus athlétique que ce que les gens lui donnent crédit. C'est un gars qui bouge bien à l'intérieur de la pochette. Je veux pas nécessairement le comparer au GOAT, Tom Brady. Je vais le faire pareil. Il y a ce genre de footing-là dans la pochette. Juste ça, là. Je parle juste de ça.
Mm-hmm.
Il est décevant un peu pour l'adversaire parce que tu penses qu'il est pas mobile du tout, mais il est quand même très intelligent dans sa pochette. Puis il est capable, en général, de lancer la balle rapidement puis de bien identifier. C'est un carrière qui est très cérébral. Il a quand même un bon bras. Moi, j'aime beaucoup Mac Jones, mais je pense que ça va vraiment dépendre avec l'équipe qui va tomber.
OK, Jean pense peur, que... Jean moi, pense de, que... Vas-y.
Ce qui me fait peur du côté de Mac Jones, c'est le fait qu'il a joué tellement avec un alignement formidable Alabama. Les receveurs étaient souvent tellement ouverts, c'était hallucinant. J'ai hâte de voir dans la NFL les fameuses passes dans des courtes fenêtres, les fameux tight windows, les fenêtres serrées. C'est là où vraiment je m'interroge parce qu'il y a un bon sens de l'anticipation, tu sais, il anticipe bien là, le tracé de son receveur, puis il est capable d'amener le ballon où il faut, il y a un bon taux de précision, mais en même temps, le fameux 77% de passes complétées, quand tes receveurs sont ouverts à gambader dans les prés, des fois ça gonfle un peu là, les perceptions. C'est le côté qui me fait peur de Mac Jones, côté intelligence, QI football, tout ça. C'est certain là, que j'ai pas de problème de ce côté-là.
Fait que Jean, toi, tu dis que Mac Jones va devenir meilleur que Tom Brady, mais Stéphane a quand même encore des réserves.
Pas du tout.
Oh, le raccourci.
Mais j'aime beaucoup Mac Jones, mais je pense vraiment que dans son cas, ça va prendre un bon fit avec l'équipe qui le repêche, tout simplement. Okay. Puis le facteur X, je dirais pour les carrières, c'est Kellen Mond, pour moi, qui est le carrière de Texas A&M. Ouais. Très, très athlétique. Tu le repêches pas en première ronde, mais peut-être en troisième ou deuxième ronde.
Ce serait une belle valeur.
Pourrait surprendre bien des gens.
Hey, juste une note sur Kellen Mond pour terminer. Là, justement, il a été MVP au dernier Senior Bowl. Dans les dernières années, juste pour s'amuser, là, quelques MVP du Senior Bowl. Dak Prescott, Daniel Jones, Justin Herbert. Donc, ça veut pas dire qu'il suit cette trajectoire-là. Il y en a eu d'autres aussi qui ont carrément fait patate dans la NFL, mais je voulais juste le mentionner parce que c'est vrai qu'en deuxième, troisième ronde, ça peut devenir une valeur intéressante.
OK, on a évité la question des QB, je pense. On va passer un peu au deuxième essai, si vous le voulez bien, les gars, aux joueurs de position. On va essayer de faire ça vite quand même, mais il y en a plusieurs qui sont qui piquent notre curiosité. Allons-y avec, d'après vous, le meilleur joueur disponible, en tout cas le meilleur joueur qui s'offre au repêchage cette année, qui n'est pas un corps arrière. D'après toi, Jean, c'est qui?
Moi, je pense que c'est Jamar Chase, le receveur de LSU. Il me fait vraiment penser à Steve Smith Sr., celui qui a joué là, évidemment avec les Ravens dans ses dernières années et la grande majorité de sa carrière avec les Panthers de la Caroline. Petit gabarit, très fort physiquement, très explosif, qui est capable de se démarquer dans les zones profondes. Je pense vraiment que c'est un receveur qui va être dominant dans la NFL pour longtemps. J'aime beaucoup ce qu'il a fait l'année qu'il a joué à LSU, parce que l'an dernier, il a pas joué. Il a pris l'année off. Mais je pense que c'est un talent d'une rare exception. Puis tu as Kyle Pitts aussi, là, qui est l'ailier rapproché avec l'Université de la Floride. Selon moi, c'est deux talents à leur position exceptionnelle. Juste te parler, tu me permets-tu de parler des receveurs
un petit peu? Bien sûr, je t'en prie. Ben oui, parce que cette année, il y a trois receveurs qui pourraient être pris rapidement au repêchage.
Ouais, l'an passé, c'était une grande année de receveurs. Cette année aussi, mais ce que j'ai remarqué, c'est quand même impressionnant. Ça montre un peu à quel point, je pense, la position est également en train de changer un petit peu pour les receveurs. Dans le top 10 d'ESPN, il y a 9 joueurs sur 10 dans les receveurs qui sont listés, dans les premiers, qui sont listés à 6 pieds et moins. Les gars, c'est un grand
c'est
changement.
Rare,
là.
C'est sûr.
Dans les 10 premiers, t'en as 9 sur 10 qui sont 6 pieds et moins.
Puis la moitié de ça ne pèse pas 200 livres.
À peu près, exact. C'est des marchands de vitesse. Donc, c'est là que tu vois la place que la NFL fait vraiment aux receveurs intérieurs avec beaucoup, beaucoup de vitesse. Des gars qui sont capables de faire mal un secondaire ou un maraudeur que tu veux le mettre en un contre un, ça marchera pas, absolument pas. Ça prend vraiment un demi-défensif spécialisé sur lui en un contre un. Jamar Chase, pour moi, il va être solide vraiment à ce niveau-là. Le seul receveur qui est en haut de 6 pieds, c'est Terrace Marshall Jr. de LSU à 6 pieds 3.
Bon, Stéphane, toi, est-ce que tu es d'accord que les deux meilleurs joueurs all around, pour prendre l'expression anglaise, c'est Jamar Chase et Kyle Pitts?
J'avais Jamar Chase en 3, personnellement. Moi, Kyle Pitts, ce serait vraiment le premier, mais encore là.
Ah oui, incroyable.
Kyle Pitts, un allié rapproché. Il y en a beaucoup qui se disent, voyons, un allié rapproché, tu peux pas mettre ça aussi haut, mais je pense pas que ça va être un exceptionnel. Là,
ah,
parce
oui.
que c'est pas seulement un ailier rapproché qui va se pencher sur la ligne de mêlée, mettre sa main dans terre, puis faire ses tracés tout bonnement. Là. Il peut être déployé partout à l'attaque.
Exact.
C'est comme un receveur, un ailier espacé dans un corps de tight end, mais il court aussi vite qu'eux. Il est aussi explosif. Il est capable d'aller chercher, évidemment, avec sa taille, son gabarit. Là, on parle d'un 6 pieds 5, 245 livres. Évidemment que c'est une cible de choix dans la zone début. Il est capable d'aller chercher les passes contestées dans le trafic, mais il peut courir aussi les longs tracés parce qu'il a la vitesse pour le faire. Donc, pour moi, ça devient une arme redoutable que tu peux utiliser à toutes les sauces. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'on a souvent halluciné sur des ailiers rapprochés là, haut de première ronde depuis plusieurs années, puis on me dirait qu'on est souvent déçus, là, que ce soit Jeremy Shockey, qui a eu une belle carrière, mais pas comme on pensait.
Au moins, lui, ça avait bloqué.
Kellen Winslow Jr., il y en a eu. Eric Ebron, dans les dernières années, tu sais, il connaît une carrière correcte, là, mais c'est pas ce à quoi on s'attendait du tout. Donc, il y a juste ça, ce petit côté-là. Mais sinon, Kyle Pitts, pour moi, c'est comme l'arme redoutable que tu peux vraiment utiliser de toutes sortes de façons dans ton attaque, dépendant des plans de match, dépendant des adversaires. Donc, c'est un côté que j'aime beaucoup.
Mais là, ma crainte, c'est que Kyle Pitts passe la première ou la deux ou deux ans même à apprendre à bloquer. Là. C'est ça aussi peut-être qu'il va voir que c'est difficile dans la NFL d'arrêter TJ Watt. Là.
Ben oui, mais tu sais, c'est au collateur à l'attaque aussi qui va le déployer sur le terrain, de le mettre dans des situations gagnantes. C'est sûr qu'il faut qu'il améliore son blocage. Est-ce qu'il est si pire que ça? C'est pas la
on le voit pas. À chaque fois qu'on regarde on le voit jamais bloqué. En tout cas,
c'est très rare. Puis exactement, les Gators faisaient une bonne job de l'utiliser à ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire attraper des ballons. Mais il est capable de bloquer. Je le comparerais un peu à Kelsey quand il est arrivé. Travis Kelsey quand il est arrivé avec les Chiefs. Il avait beaucoup de difficultés à bloquer. Puis ça s'est amélioré. Puis présentement, il est rendu un bon bloqueur.
Ouais, Donc, il est dans les bons.
Faut y donner du temps. Ça sera pas sa plus grande force en arrivant, mais je pense qu'il y a une grande différence présentement à la position d'allié rapproché entre lui et le deuxième sur la liste. Tu comprends? Il y a une énorme différence. C'est ça qui fait qu'il est très intéressant pour les équipes. Ceci étant dit, je pense vraiment que la position la plus difficile de faire le saut entre le college et la NFL, c'est allié rapproché. Ça prend toujours un ou deux ans. C'est très, très rare qu'un allié rapproché a de l'impact immédiatement.
OK, mais disons qu'on termine sur le côté offensif avant d'aller en défense, mais qu'est-ce que vous pensez de Penny Sewell, qui était supposément peut-être le premier choix repêchage de 2021 il y a quelques mois, et puis que là, certains mock drafts le mettent 15, 16, 17, 18.
Ah, je serais surpris qu'il glisse autant que ça. C'est possible qu'il glisse à cause qu'il va probablement y avoir une ruée vers les corps arrière là, dans les 3-4 premiers rangs. Là. Dépendant si Atlanta garde son choix, s'il l'échange, etc. Mais Penny Sewell va rester là, dans les joueurs les plus convoités de cette QV-là. T'sais, c'est un gars qui a 20 ans, donc très jeune, il y a encore de la place à amélioration. C'est pas comme s'il est parvenu à son top. En tout cas, je ne pense pas. Un gros bonhomme de 330 livres et plus qui se déplace très bien. T'sais, avec l'offensive d'Oregon, là, t'as pas le choix. Il y a beaucoup de passes voilées.
Il est très mobile.
Il y a beaucoup de passes voilées, des tactiques un peu comme ça où les joueurs de ligne offensive doivent se déplacer puis aller chercher leur gars plus loin là, à d'autres niveaux sur le terrain que directement sur la ligne. Puis Sewell l'a bien démontré. Est-ce qu'il va avoir de la rouille parce qu'il a pas joué 2020? Peut-être, là. T'sais, c'est pas garanti qu'il va être un partant de qualité de manière instantanée. Mais le plafond est tellement élevé avec un gars comme ça, le potentiel est énorme. Moi, j'ai pas l'impression là qu'il va descendre. J'en ai vu là des mock drafts comme tu parles, Jean-Nic. Là, je sais très bien que t'as pas halluciné. J'en ai vu qu'il glissait. Personnellement, je serais extrêmement surpris.
De mon côté aussi.
Moi, c'est mon numéro 2 dans mon top 10 hors QB, disons.
Moi, je l'ai 3. J'aime beaucoup Micah Parsons aussi, un secondaire de Penn State. Écoute, la fabrique à secondaire de la NFL, Penn State, ils en ont fait plusieurs à travers les années, soit Posluszny,
On dit de lui qu'il y a beaucoup de problèmes au-dessus des épaules. C'est pas en bas des épaules le problème.
Ouais, exact. C'est là que je me questionne, mais athlétiquement, je peux te dire qu'il y a d'affaires sur un terrain de la NFL. Il est très athlétique, puis comme beaucoup de secondaires qui ont passé par Penn State, il est très bon techniquement. Selon moi, s'il n'y a pas de problème en haut de la tête, c'est un plug and play dans la NFL. Il va avoir de l'impact dès sa première année. C'est un gars qui est c'est un général défensif comme tu veux de ton secondaire intérieur. Donc, ça va être maintenant à voir s'il va être capable d'être tranquille.
Ben poursuivons sur les joueurs en défense parce qu'on se dit souvent que les bonnes équipes en défensive en ce moment, ils ont des edge rushers, là, des gens qui mettent de la pression sur le corps arrière. Ouais. Normalement, il y en a toujours un qui se pointe un peu, là, un gros gars, un Devon Clowney, n'importe qui
un Chase Young l'an passé.
Ben, c'est ça. Puis là, cette année, écoute, tu regardes.
C'est plus tranquille. C'est plus d'incertitude.
À 28, 32.
Ouais, exact. C'est une meilleure QV pour les demi-défensifs, honnêtement, cette année. Je pense entre autres là à Patrick Surtain de Sacken, qui est très très solide, Caleb Farley aussi qui a joué à Vitek. Ça c'est des demi-défensifs, je pense que ça va être des poules. Tu drafts ces gars-là puis ils vont, tu te poses pas trop de questions. Dans les edge, il y a un joueur moi je pense qui commence à prendre dernièrement là, j'ai vu qu'il était en montée, c'est Grégory Rousseau. Non, il est pas québécois, les gars. Il a joué allié défensif à Miami. Il me fait penser un peu à Julius Peppers. C'est un grand joueur, 6 pieds 7. C'est rare que tu vois aussi grand sur les coins de ligne. Il a beaucoup de potentiel, puis il y a encore beaucoup de place à mettre du poids, puis je dirais de la maturité physique sur son frame. Je pense que ça va vraiment là. Son plafond, lui, il est très élevé. Je pense qu'il est loin d'avoir atteint son plein potentiel. Puis moi, je pense que ça va être une option intéressante sur le coin de la ligne.
Fait OK,
que,
toi, Steph, qui tu vois en défense qui pourrait être ton coup de cœur si t'étais un manager de la NFL?
Ben, mes premiers coups de cœur, on les a mentionnés, là, Parsons puis Surtain, mais sinon, un demi de coin aussi, Johnny a parlé de Caleb Farley. Caleb Farley, ce qui fait peur, c'est sa blessure au dos, là. Ça, c'est le point d'interrogation dans son cas. C'est ce qui semble le faire glisser dans les classements parce que sinon, c'est tout un athlète. Mais J.C. Horn, un autre demi de coin, là, qui va être repêché visiblement très tôt. Il était excellent, lui, là, pour jammer là, les receveurs sur le bord de la ligne de mêlée. Très physique au point où dans la NFL, ça va être à surveiller. Là. Il pourrait être la cible de quelques mouchoirs des arbitres en début de carrière. Il va avoir un ajustement, mais c'est un demi de coin là, que j'aime beaucoup. Puis le secondaire dont il va falloir apprendre à prononcer le nom correctement, Jeremiah
Owusu-Koramoah.
Là, lui, vraiment, là, c'est intriguant. Ah oui. Parce qu'on parle d'un gars de 215 livres. Ça, c'est ce que ça veut dire. c'est que visiblement, il va être un joueur hybride. Les joueurs, les fameux joueurs défensifs hybrides à la mode actuellement dans la NFL, qui jouent un peu secondaire, un peu demi-défensif, qu'on envoie à toutes les sauces sur le terrain. Un gars qui a beaucoup, beaucoup de vitesse, mais à 215 livres, est-ce qu'il va se faire déplacer par les bloqueurs adverses? Ça reste à voir, mais c'est un joueur qui est franchement impressionnant, un gars de Notre Dame qui pourrait faire des dégâts vraiment dans la NFL.
OK, merci les gars. Et on parle depuis, je crois, 5-10 minutes des joueurs qui peuvent être repêchés rapidement, puis des meilleurs joueurs du repêchage cette année. Puis on oublie toujours que les running backs,
ouais.
C'est incroyable comment qu'il n'y a plus d'intérêt, en tout cas, où on peut tellement en trouver rapidement sur le marché des joueurs autonomes ou des joueurs qui sont pas...
Il y en a, selon moi, personnellement, il y en a 3 qui ont une chance de sortir en première ronde, mais c'est très possible aussi qu'il n'y en ait pas un des 3 qui sortent en première ronde. C'est on vrai. Parle de Najee Harris, Alabama, ouais. Qui est assez complet, un gros gabarit, qui est capable de jouer très physique. C'est grandement amélioré aussi pour l'aspect receveur de passe là, dans la dernière année. Sinon, Travis Etienne, qui est probablement le plus explosif du lot, lui, quand il pogne l'extérieur, là, il va être très, très difficile à rattraper. C'est une menace de coup de circuit dès qu'il touche le ballon. Mais par contre, petit problème de fumble là, durant sa carrière collégiale, ça parle pas toujours aux équipes de la NFL.
Non, ça pardonne pas dans la NFL.
Ouais, c'est ça. Puis l'autre, c'est Javonte Williams de North Carolina. Si vous aimez les gars, les porteurs qui ont le feu au derrière, là, qui font du rentre dans le tas, qui sont capables de briser des plaqués, qui jouent avec beaucoup de hargne, je pense que c'est votre homme, ça. T'sais, on revient toujours aux mêmes exemples, là, un Marshawn Lynch, puis ces genres de gars-là. Mais Williams a peut-être encore plus d'explosion qu'un gars comme Lynch. Là. J'ai l'impression, lui, qu'il pourrait surprendre là, une fois rendu chez les points.
Okay, Travis Etienne de Clemson, je pense que c'est le plus polyvalent de la gang. Il débarquait à peu près jamais. C'est peut-être le seul questionnement. Est-ce qu'il a trop joué dans ses années à Clemson? Je pense encore, moi, qu'il reste beaucoup de bonnes années dans les jambes. Il me fait penser un peu à McCaffrey, honnêtement. C'est un gars qui est capable de tout faire sur le terrain avec beaucoup de vitesse. Moi, c'est un gars que je prendrais une chance dessus.
En tout cas, tu y vas pas mollo aujourd'hui avec tes comparaisons.
Ouais, mais si ça veut dire qu'il me fait penser à lui, ouais, je veux pas dire qu'il va devenir McCaffrey. Tu sais.
Il va meilleur que McCaffrey et Adrian Peterson réunis. C'est ce qu'on comprend. Hey, Jean, commence-moi donc ton mock draft. On y est, OK? C'est l'heure des prédictions, les gars. Je veux entendre votre mock draft. On va commencer. On va faire les 10 premiers choix d'après vous. Puis je vais vous demander aussi 5 choix au repêche, 5 choix qui vont être pris par des équipes, soit en première ronde ou soit dans les rondes subséquentes que vous aimeriez nous parler. Commençons évidemment avec le premier choix au repêchage. Jean, qui tu vois partir en premier cette année?
Écoute, il n'y aura pas de surprise de mon côté. Ça va être Trevor Lawrence de Clemson.
OK.
S'il y a une chose qui est à peu près certaine dans le repêchage, c'est que ça va être lui qui va
faire. Ben là, l'infographie de Jacksonville a déjà Trevor Lawrence dans ses dessins.
Il y a même des fans de Jacksonville parce qu'ils viennent de se marier, qui ont donné un cadeau de mariage déjà à Trevor Lawrence, ils ont récolté quelque chose comme 21 000 $
Ouais, il peut commencer à magasiner sa maison à Jacksonville, je pense. Steph, même chose pour toi?
Ouais, ben moi, je dis souvent aux lecteurs dans le journal, ça m'est arrivé souvent d'écrire, ça devrait se passer de telle façon, mais gagez pas votre maison non plus là-dessus. Là, gagez-la votre maison, là, ça va bien aller. Il n'y a pas de trouble, c'est Trevor Lawrence qui va être premier, c'est sûr.
OK, en deuxième, les Jets de New York, qui ont terminé à se rendre repêchage et qui choisissent deuxième. Ils ont espéré longtemps finir bon dernier, mais Adam Gase a réussi à leur gagner quelques matchs. Qui vont repêcher en deuxième? Vas-y donc, Stéphane.
Ben, tu sais, le bruit qui court partout, c'est Zach Wilson. Ça semble être vraiment l'homme de leur convoitise, disons-le comme ça. Là. À ce stade-ci, moi, c'est, tu sais, je prendrais pas de chance. Là. Tu veux pas rater ton coup là, dans les premiers choix. Le troisième va être un peu plus touché là, parce que c'est San Francisco, pis on sait pas exactement où ils s'en vont. Mais Zach Wilson avec les Jets, je pense qu'à ce stade-ci, c'est pas mal coulé dans le béton.
OK, Jean?
Ben écoute, est-ce que tu me demandes ce que moi je drafterais ou
non,
ce
non,
que
c'est l'équipe... notre mock draft. Là, c'est vraiment ce qui va se passer.
OK. Ben ça va être la même chose. On va prendre le petit gars de BYU, Zach Wilson.
OK, troisième, Jean. Qui les 49ers, pour après avoir fait un échange assez important avec les Dolphins pour aller chercher le troisième choix au repêchage, avec d'ailleurs, qui en est sorti de gagnant, cet échange-là? Mettons qu'on fait une petite parenthèse là, entre les Eagles, les Dolphins et les 49ers. Un gros échange qui a eu lieu avant le repêchage.
Ben honnêtement, c'est pas un mauvais échange pour aucune des équipes, à mon avis. Tu sais, les Niners avaient besoin de bouger s'ils voulaient avoir un carrière de concession. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'échange pour les Dolphins. Trois choix de première ronde, je veux dire.
Ouais, moi aussi.
Ils sont allés chercher encore du capital avec une équipe qui est loin d'être mauvaise. Ça va amener de la profondeur aux Dolphins, c'est sûr et certain. Moi, je pense que si j'avais à voter pour une équipe qui a gagné, c'est Miami.
Ton troisième choix, ce serait qui si t'es les 49ers? Disons, ouais, qu'est-ce qui va se passer?
Je sais que tout le monde parle que c'est Mac Jones qui va sortir avec les Niners, mais ça me rentre juste pas dans la tête, les gars. Moi, j'ai Justin Fields qui va sortir avec les Niners, même si Trey Lance n'a pas l'air d'être des plans du tout de Kyle Shanahan. Donc, je vais y aller avec Justin Fields, qui pourrait aussi être un bon fit avec San Francisco.
Steph?
Ah, ben, je vais être aussi têtu que toi. J'ai Justin Fields aussi. Je suis pas capable. Ça... Mac Jones, oui, première ronde. Puis oui, potentiellement un très bon carrière dans la NFL. Mais troisième au total, je vois pas comment San Francisco aurait donné tout ça pour aller s'avancer aussi haut pour prendre Mac Jones, sachant qu'il aurait pu être disponible. Je sais pas, moi, 7, 8, 9, ça aurait coûté beaucoup moins cher. Alors que Fields, je le vois vraiment. Je vois vraiment plein d'autres équipes s'avancer au rang numéro 3 pour aller le chercher. J'ai l'impression qu'au final, les Niners vont ramener tout le monde sur terre puis repêcher le choix qui est le plus safe en Justin Fields.
OK, disons qu'il n'y a pas d'échange et qu'Atlanta conserve son choix repêchage au quatrième rang. Qui repêche-t-il, Steph?
Ça, c'est embêtant parce que c'est là vraiment que ça commence. On le sait que les trois premiers, ça va être trois carrières. Atlanta, ils ont Matt Ryan qui a 36 ans, qui pour l'instant doit continuer d'être leur carrière parce que ce serait tout simplement trop coûteux, point de vue plafond salarial, de le libérer, là, que ce soit cette année ou même l'année prochaine. Donc, on sait qu'il est là en poste pour encore un petit moment. Mais il y a le propriétaire Arthur Blank qui, semble-t-il, est en amour avec la cuvée de carrière actuelle. Puis lui, ce qu'il fait valoir à ses hommes de football, c'est quand est-ce qu'on va encore repêcher quatrième, nous autres? C'est pas supposé d'arriver souvent qu'on a cette opportunité-là. Donc, on dit, il impose pas le choix, il impose pas la vision, mais tu sais, quand un propriétaire fait ça, des fois c'est subtil, mais ça finit que tu t'orientes un peu vers sa vision. J'ai hâte de voir si les Falcons vont s'enligner comme ça. Moi, je dis qu'ils vont y aller avec Kyle Pitts, qui vont se laisser encore du temps pour se dénicher un carrière du futur. Ça peut être dans les rondes subséquentes ou dans les années qui s'en viennent. Kyle Pitts, qui va être une arme vraiment intéressante pour eux, qui peut encore donner une autre arme de plus à Matt Ryan, qui en manque clairement pas dans le moment. Là. Ça va être Kyle Pitts.
Jean. Là, on prend comme considération, on considère que...
Pas d'échange.
Pas d'échange, parce que moi, je pense vraiment que les Falcons vont échanger leur choix. Mais je vais y aller avec Kyle Pitts aussi. Ça fait longtemps que les Falcons se cherchent, je pense, un allié rapproché là, de grande, grande qualité. Je pense qu'ils cochent toutes les
Mais dans votre tête, cases, il y a une équipe qui va descendre et qui va aller chercher Trey Lance s'il est encore disponible ou Justin Fields.
Atlanta a carrément la situation idéale. Dans une razzia de corps arrière comme ça, il y a un club qui veut devancer, je sais pas, moi, Détroit en 7, Caroline en 8, Denver en 9. C'est tous des clubs potentiellement intéressés à des corps arrière. Tu t'en vas chercher le choix d'Atlanta. Tu sais, honnêtement, là, ça pourrait devenir une mine d'or pour les Falcons qui ont plusieurs lacunes à combler.
Exact.
T'sais, c'est ça aussi qu'il faut que tu considères dans l'équation. Est-ce que tu vas chercher un Pitts qui t'améliore vraiment là, en attaque potentiellement, du moins? Ou tu dis, ben j'échange ce choix-là contre un autre choix de première ronde, un choix de deux, puis bon, peu à peu, je reconstruis un alignement intéressant. Ça va être le dilemme à répondre okay. Pour les Falcons.
Si les Falcons repêchent un carrière, je pense vraiment que ça va être Trey Lance de mon côté, s'il est disponible, parce que ça ferait un peu de sens d'y faire faire un an derrière Matt Ryan. Il n'est pas nécessairement prêt peut-être encore tout de suite pour la NFL. Donc, si c'est là qu'ils veulent s'en aller, mais moi, je suis convaincu qu'ils vont échanger leur choix.
OK, continuons avec les Bengals de Cincinnati. Qui les Bengals ont besoin d'aller chercher pour renforcer leur équipe?
OK, ben là, honnêtement, les gars, je veux parler des Bengals là, parce que si les Bengals font un autre choix que ça, honnêtement, je me pose vraiment de sérieuses questions sur la capacité de dirigeants que les Bengals ont. Ils peuvent pas aller avec autre chose qu'un joueur de ligne à l'attaque. Puis on en a parlé, OK, peut-être que si t'aimes pas Penny Sue Wells, ça peut être quelqu'un d'autre, là. Mais faut que t'ailles chercher un joueur de ligne à l'attaque. Parce que là, je vois beaucoup, là, il y en a beaucoup dans les mock drafts
qui mettent Jamar Chase,
parce qu'il a joué, évidemment, avec le même carrière à LSU. Ça ne fait pas de sens. Faut que tu protèges ton investissement. Qu'est-ce que ça va te prendre de plus? Qui scrape l'eau au genou? Tu sais, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Bloqueur, Oregon, Penny Sewell, les Bengals. On va voir s'ils sont sérieux comme organisation.
Ouais, j'ai Sewell aussi, là. J'aimerais ça qu'on chicane un peu, mais à date, ça suit la logique. Tu sais, Sewell, Il y a une théorie qui circule à l'effet que, bon, les Bengals, il y a quoi, 2 ans, ont drafté Jonah Williams comme bloqueur, qui est pas nécessairement un mauvais choix, là. Il a été blessé, c'est toujours ben pas de sa faute. Il peut encore se développer. Puis là, ils disent, ouais, ils ont été chercher aussi Riley Reiff, un bloqueur sur le marché des agents libres. Je peux vous dire que, ouais, comme partisan des Vikings, je l'ai vu à l'œuvre, Riley Reiff, là, puis c'est pas la solution pour t'assurer que Joe Burrow va finir sa carrière là, debout. Faut pas le voir comme ça. Moi, je le vois comme un move de profondeur. Tu peux, à la limite, amener Sewell tranquillement en disant, ben écoute, on a Reiff pour garder le fort au début de l'année dans les premiers matchs, puis tranquillement, on introduit Sewell, mais je le vois tout simplement pas comme une solution qui permet aux Bengals d'ignorer ce besoin criant-là, tout simplement. Donc, Penny Sewell, 5e choix, Bengals.
OK. Sinon, bon, ça peut être Rashawn Slater de Northwestern, qui est un autre joueur de ligne à l'attaque. Un peu différent, mais lui, c'est un pas fin. Il aime ça brasser. Ça pourrait être un choix aussi qui serait solide pour les Bengals, parce que tu peux le bouger comme garde aussi, j'ai l'impression.
OK. Là, maintenant, on a fait le top 5. Là, je vais vous demander 5 autres choix dans votre boule de cristal que vous croyez qu'une équipe dans la NFL devrait repêcher, soit en première, soit en deuxième ou dans les rondes subséquentes pour améliorer leur équipe. Steph, as-tu quelqu'un à nous proposer?
Ben écoute, je vais y aller avec... j'ai l'impression que tu sais, là, il y a une ruée vers les corps arrière puis que ça va profiter à certains clubs. Je pense que on parlait de Micah Parsons tantôt, l'excellent secondaire de Penn State. J'ai l'impression qu'il pourrait glisser jusqu'aux Giants qui ont le choix 11, si ma mémoire est bonne. J'ai pas l'ordre devant moi, là, mais j'ai l'impression qu'un joueur comme ça, normalement, toute autre année où il y a 2 ou 3 carrières choisies en première ronde, un Micah Parsons ne glisse pas. Mais cette année, dans le contexte actuel, ça pourrait profiter à un club comme les Giants qui aurait franchement besoin d'un général défensif comme ça. Donc, allons-y comme ça, comme prédiction pour ma première shot.
OK. Jean?
Écoute, moi, je vais y aller avec les Cowboys qui sont en 10. Quiconque a vu jouer les Cowboys l'an dernier peuvent témoigner, merci, je testify, c'est un bon vieux anglicisme, peuvent témoigner que
leur... Ils font traverser la défense.
Ouais, leur tertiaire est pas super incroyable. Donc, pour moi, je vais y aller avec un demi de coin. Je pense qu'ils en ont besoin du côté des Cowboys. Puis je vais y aller avec
Patrick Surtain.
Caleb Farley.
Ah, pour vrai?
Virginia Tech.
Ah ben. OK, c'est bon. Moi, j'aurais vu Patrick Surtain.
Capable de jouer de la zone, capable de jouer du man. On parle de... Stéphane en a parlé tantôt, il y a une blessure au dos. Mais si ça, c'est correct, je pense vraiment que ça va être un demi-défensif de grande qualité dans la NFL.
OK, un troisième joueur, Steph, qui pourrait nous surprendre
Ben, écoute, on a parlé beaucoup de Trey Lance tantôt. Où c'est qu'il va aboutir? Je le vois au rang numéro 9 avec les Broncos qui ont besoin d'un électrochoc. Je comprends qu'il y a Drew Lock, que c'est peut-être injuste en quelque sorte parce qu'il a été repêché quoi en 2018. Il a presque pas joué à son année recrue. Il a eu le poste l'an passé, mais écoute, l'échantillon est très mince. Je comprends tout ça, mais dans la NFL d'aujourd'hui, faut que ça bouge et vite. Pourquoi? Parce que les corps arrière, tu dois profiter de leur contrat recrue qui fait en sorte que tu les payes des peanuts pour investir ton argent partout ailleurs sur l'alignement. C'est cette fenêtre-là dont tu dois profiter de plus en plus pour te monter une équipe championne. On l'a vu avec quelques équipes dans les dernières années, là, que ce soit les Chiefs avant que Mahomes signe son méga contrat. Regardez les deux présences au Super Bowl des Seahawks. C'est dans les premières années de Russell Wilson, alors qu'il coûtait à peu près rien. C'est comme ça souvent là, qu'on bâtit une équipe actuellement. Donc, j'ai l'impression que Lance pourrait être un électrochoc à Denver par son style très athlétique, très différent de ce que Drew Lock a à offrir.
OK. C'est bon, parce que c'est intriguant parce que Drew Lock, les Broncos semblaient avoir décidé qu'il serait partant la prochaine année, mais en effet, s'ils ont la chance d'avoir un des top 5 qui glisse jusqu'en 9e position, sans échanger leur choix, peut-être qu'ils vont agir. OK, quatrième joueur, Jean, qui pourrait être repêché plus tard dans le repêchage, qui est intéressant à suivre.
Ouais, ben écoute, moi je vais y aller avec les Pats, les gars, parce que écoute, ça reste que c'est une équipe que les fans de la zone payante suivent avec attention. Je pense que les Pats, ils vont aller chercher le choix numéro 4 des Falcons. Ils vont repêcher Trey Lance avec.
OK. Fait que toi, tu voyais Mac Jones dans ta soupe, mais finalement, le remplaçant de Tom Brady, ça va être Trey Lance.
Je pense vraiment que c'est un bon fit avec les Pats. C'est un gars qui est athlétique, qui est capable de jouer plusieurs systèmes. Il a joué.
Apprendre derrière Cam Newton, ce serait pas une mauvaise chose non plus.
Exact. Une année facile d'apprentissage. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress. Moi, je pense que c'est le gars que je pense que les Pats ont ciblé.
Mais ça, c'est vrai que les Pats ont tout fait en ce moment pour repêcher un joueur, un corps arrière et le mettre dans un contexte parfait pour apprendre puis pour avoir une bonne carrière à partir de sa deuxième année.
Ouais, puis Trey Lance, comme j'ai dit, aussi son éthique de travail, moi je pense que c'est quelque chose qui parle à Bill Belichick, un carrière qui veut, et dans les deux cas, soit Mac Jones ou Trey Lance, les deux cochent cette catégorie-là. Moi je pense que c'est vraiment le gars qui ont dans leur vision. Moi je pense qu'ils vont aller chercher cette carrière-là, puis ça va être ça.
OK, c'est intéressant. Dernier joueur, Steph, un cinquième joueur qui pourrait être repêché et qui sera à suivre lors du repêchage du jeu.
Là, vous allez faire un moyen saut, là, tournez vos listes, parce que je vous amène au 129e choix, les gars.
Ah, oh, est-ce 129e? Que tu me parles d'un Québécois?
Pourquoi un 129e choix, quatrième ronde, Seahawks de Seattle, Benjamin Saint-Just? Écoute, un Québécois là, qui serait repêché en quatrième ronde, c'est plutôt rare. Il y en a même qui le voient plus haut que ça, troisième ronde. J'ai vu Mel Kiper dans un repêchage simulé l'envoyer aux Bills en deuxième ronde. Donc, c'est clairement pas là, une vision de l'esprit là, que j'ai. C'est un gars qui va être repêché, c'est sûr et certain. Il reste à savoir où. Puis pourquoi Seattle? Ben écoute, c'est un peu le style de demi-de-coin qui ont souvent préféré les Seahawks. Ils aiment leurs demi-de-coin grands avec de longs bras qui sont capables de jouer physique. C'est le style de Benjamin. Ce sera un bon fit à première vue. La chose là, qui me fait peur par rapport à cette prédiction-là, où je m'amuse un peu honnêtement, là, c'est que Seattle n'a vraiment pas beaucoup de choix au repêchage cette année. Sauf erreur, ils ont 4 choix donc. Est-ce qu'ils vont se tourner là, vers un gars de chez nous pour combler une de leurs lacunes? On sait qu'ils ont perdu aussi Shaquille Griffin sur le marché des agents libres, donc il va falloir qu'ils regardent la position de demi de coin. Ce serait intéressant, honnêtement, de voir ça. Ce serait même captivant de le voir se retrouver à Seattle, puis il y aurait franchement un rôle à aller chercher là-bas.
OK, merci les gars, c'est intéressant. Donc le repêchage, ça commence jeudi, hein? Jeudi le 28. Avril, si ma mémoire est bonne, corrigez-moi si je me trompe, j'avais cette date-là.
Donc, c'est jeudi, la première ronde.
Trois jours.
Jeudi, la première ronde. Vendredi soir, les rondes 2 et 3. Puis samedi, après-midi, les rondes 4 à 7.
Non, jeudi, exact. Le 29. Je me corrige, donc c'était bien. Jeudi, le 29, pour le repêchage de la NFL. Ben, ça va être à suivre. Merci, les gars. Restez là, parce qu'après la pause, ben, c'est notre quatrième essai. On va y aller avec des questions en rafale. Bougez pas.